Bonsoir, il est 18h, l'heure de votre émission « Une heure en Palestine », programmée chaque mercredi sur Radio Galère 88.4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est BDS Provence qui anime l'émission et je suis Bernard. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre page Facebook BDS Provence ou le site internet de l'association AMI www.assopalestine13.org. Et c'est Sidi qui assure la technique. Merci Sidi. La guerre et son génocide s'amplifient à Gaza avec des bombardements ravageurs qui sont de vrais crimes de guerre. Des missiles dévastateurs ont été tirés sur un camp sécurisé par l'armée israélienne elle-même. Le bombardement du camp de Khan Younes, camp de réfugiés, baladé sans fin par les militaires israéliens. Ce bombardement a tué 40 personnes et en a blessé gravement 60, en larguant des bombes fraîchement livrées par les États-Unis. Et immédiatement, l'argument fallacieux en usage depuis le 7 octobre est repris en boucle, comme des perroquets par nos médias mainstream. Ce camp cachait des combattants du Hamas. La preuve n'est que dans cette affirmation d'un militaire israélien. Toujours plus de morts, toujours plus d'impunité. Il y a 10 jours, 6 otages retrouvés morts dans un tunnel. Juste émotion, nos grands médias brandissent leur portrait à la une de leurs éditions. Ces mêmes médias peuvent-ils nommer une seule victime palestinienne et brandir sa photo parmi les 40 000 morts palestiniennes recensées à Gaza ? Bien sûr que non. D'abord, parce que les morts ne sont pas égaux. Répétons-le, pour nos médias, les morts de Gaza ne sont que des additions. Mais aussi, parce que l'armée israélienne interdit l'accès de la presse internationale à Gaza. Et deux, parce que cette même armée tue par des tirs ciblés tout ce qui ressemble à un journaliste palestinien. Mediapart compte à ce jour 81 victimes comptées et visibles sur le site du média en ligne. Et trois, parce que nos médias ont pour mission d'invisibiliser ces crimes. Qui pourra les arrêter et stopper Israël ? Car sur LCI, pas de génocide, mais des dégâts collatéraux, n'ayant pas le même statut que les morts tués par le Hamas le 7 octobre pour François Hollande, par exemple. Josep Borrell, vice-président de l'Union européenne, est scandalisé par la mort des personnels de l'ONU. Encore une discrimination difficile à comprendre. Mais Josep Borrell ne fait que des déclarations. Courir les plateaux télé n'a jamais fait reculer Netanyahou, qui ne comprend que les rapports de force. L'Union européenne possède un levier dont elle doit faire usage. La suspension de l'accord d'association avec Israël. Toute autre déclaration n'est que poudre aux yeux, surtout la volonté de ne rien faire. Cette revue de presse prend ce mois-ci l'intitulé de citation sonore. En effet, pas d'extrait de presse sonore, mais un enregistrement réalisé par le service de presse de l'université d'été de LFI. Pourquoi ? Parce que ce parti est le seul à avoir mis la Palestine à son programme lors de son université d'été, où une table ronde était intitulée « Palestine, Israël, une histoire coloniale ». Donc, la parole à Mathilde Panot, qui accueillait 3 invités lors de cette table ronde des amphithéâtres. Mais avant celle-ci, un coup de gueule, celui d'un ex-premier ministre, qui est le seul homme politique de droite à dire haut et fort ce que lui inspire la guerre israélienne faite à Gaza. J'ai nommé Dominique de Villepin.
Aujourd'hui, nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. On a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer, de se dégrader. On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique. Je n'ose pas même trouver de référence et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passe à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi ? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien. Mais c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc, on est en absurdie. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter.
La guerre a fait des dizaines de milliers de morts à Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas parle de plus de 40 000 morts. L'enclave est plongée dans un désastre humanitaire et sanitaire.
Mais alors, il n'y a pas que j'entends ça en permanence. Il n'y a pas que le ministère de la Santé du Hamas qui dit qu'il y a 40 000 morts. Il y en a vraisemblablement beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, de ce point de vue-là, ne donnons pas le sentiment que, voilà, que ce serait un chiffre comme cela, tronqué. Non. C'est malheureusement une réalité de tous les jours. À Gaza, les corps sont en morceaux, les cœurs sont en morceaux, les âmes sont en morceaux, les têtes sont en morceaux. Et, l'idée de reconstruire tout cela, alors qu'il n'y a aucune perspective. Il faut quand même voir qu'Israël est en train de créer les conditions d'une réoccupation de Gaza. Que ce soit dans la ligne sud, que ce soit dans la ligne qui coupe au milieu, l'Israël a repris possession de Gaza, la création d'un périmètre autour. Gaza est complètement assiégée. Et donc, à un moment où la Cisjordanie elle-même est en train de se décomposer, on le voit dans le nord de la Cisjordanie et dans le sud de la Cisjordanie, nous sommes devant une véritable cocotte minute. Mais que faire ? Nous avons des leviers. Nous avons des leviers en matière d'armement, nous avons des leviers en matière économique. Nous continuons à accepter de commercer avec un certain nombre de territoires où la colonisation israélienne est active, mais nous refusons de le faire sous des arguments qui sont absolument inouïs sur le plan culturel et intellectuel. Il faut laisser Israël mener sa guerre jusqu'au bout. Mais quel bout ? Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, dit que le Hamas a été éradiqué à Gaza. C'est quoi le bout ? Et c'est le même problème en Ukraine et à Gaza. Nous n'avons pas d'objectif politique. Israël n'a pas d'objectif politique. Et quand vous n'avez pas d'objectif politique, la seule chose que vous savez faire, c'est la guerre.
Après cette mise au point de Dominique de Villepin, la parole à Mathilde Panot.
On parle de débat lunaire, absolument horrible, sur a-t-on le droit, oui ou non, de violer un prisonnier palestinien, avec 10 soldats réservistes qui ont été arrêtés pour un viol sur un prisonnier, puis qui ont été relâchés. Donc, si nous sommes ici, c'est d'abord pour comprendre la situation qui se passe en Palestine, et c'est pourquoi nous faisons... Et puis parce que nous refuserons à tout moment d'invisibiliser la disparition programmée qui est faite par l'extrême droite israélienne du peuple palestinien. Si nous sommes ici, c'est pour réaffirmer que... Après quasiment 11 mois de génocide, nous ne laisserons jamais la Palestine disparaître. Et nous le disons à nos adversaires, vous pouvez nous taper autant que vous voulez, vous pouvez essayer de nous salir autant que vous voulez, nous ne nous tairons pas. Voilà ce pourquoi nous sommes là. Et évidemment, pour savoir comment nous devons agir dans les mois qui viennent pour être à la hauteur de la situation. Et je vais commencer à donner la parole à Sbeisbe, que je remercie encore d'être présent avec nous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci Mathilde Panot pour l'invitation déjà et à la France Insoumise pour nous avoir donné l'occasion de parler de cette question de la situation coloniale en Palestine. Qui n'est pas rien d'ailleurs, qui n'est pas quelque chose de très pertinent en France, et je vais expliquer pourquoi. Et du coup, déjà intitulé la conférence avec l'histoire coloniale, c'est quelque chose, je dirais, de très avancé pour faire face à ce sens commun produit par les médias et la télé en France, et malheureusement par certains milieux aussi académiques. Et je vous remercie aussi d'être si nombreux. Si on arrive aujourd'hui de parler de la situation coloniale en Palestine, c'est parce qu'il y a un génocide à Gaza, mais surtout parce qu'il y a aussi des étudiants qui se sont mobilisés au sein des universités en France, qui étaient beaucoup plus courageux, je dirais, que certains intellectuels. Donc j'aimerais bien les saluer. Et ce qui est en jeu en France aujourd'hui, ce n'est pas la critique, c'est surtout la raison. On ne veut plus entendre ceux ou celles qui expliquent, qui raisonnent, pour comprendre et saisir la réalité. Et cette question, la situation coloniale, est indispensable pour saisir la réalité en Palestine et comprendre déjà ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, non seulement venant comme, je dirais, un moment d'exception, mais comme une certaine continuité depuis un siècle. Et c'est grâce au paradigme colonial qu'on peut saisir cela. Je vais alors mettre l'accent sur qu'est-ce que j'entends par situation coloniale et comment et pourquoi c'est indispensable sur le plan analytique, mais quand même aussi moral, pour pouvoir proposer des solutions. Si je reprends certains éléments de définition de l'anthropologue Balandier concernant la situation coloniale, il dit tout simplement qu'il y a une minorité qui va exploiter, dominer une majorité autochtone. Cette minorité est différente culturellement et racialement. Ils vont utiliser un certain appareil de justification, que ce soit racial, civilisationnel, religieuse, quel que soit l'appareil de justification, pour montrer qu'il y a une supériorité de ceux qui dominent et ceux qui sont colonisés. Quelque chose de très important, cette minorité est dotée d'une puissance économique, matérielle et surtout militaire. Donc, l'un des principes dans une situation coloniale, c'est la force et c'est la violence. Et l'usage de la violence n'est pas quelque chose d'arbitraire, mais c'est structurel dans une situation coloniale. Donc le caractère antagoniste, c'est le caractère qui va définir la relation entre colonisateur et colonisé. Comment ces éléments de définition peuvent éclaircir la situation en Palestine? Je dirais que les Palestiniens, depuis les années 50, mais bien avant, ils parlaient d'une situation de colonisation, de peuplement, et je dirais, j'ajoute encore, de remplacement. Donc l'idée principale, c'est considérer la Palestine comme une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. Donc c'est une zone vide. Et on va la coloniser. Des Palestiniens comme Hassan Kanafani, comme Walid Khalidi, comme Faiz Sayer, ils parlaient de colonisation dès le début. Mais ce type de discours n'existe pas en France. Parmi les articles scientifiques qui ont été écrits sur cette question, c'est l'article, le fameux article en 67 de Maxime Rodinson, Israël fait colonial, point d'interrogation. Et Rodinson, il a été traumatisé par cet article, parce que la réception de cet article a fait bruit, tellement qu'il a été traumatisé qu'il n'avait même pas envie d'entendre parler de cet article. 20 ans plus tard, je dirais. Il explique la première chose, que le sionisme s'est inscrit dans un esprit européen dès l'époque, il y a un siècle, où il y avait le slogan selon lequel on peut tout coloniser en dehors de l'Europe. Les Européens, à l'époque, ils se considéraient maîtres, supérieurs par rapport aux autres. Et là, je vous envoie aussi au livre de Norbert Elias sur le temps. Lorsqu'on a inventé la machine, on est devenu maître du temps. Et donc, à ce moment-là, on s'est senti supérieur par rapport aux autres, et donc on se permettait de faire ce qu'on voulait. Donc, à partir de là, le mouvement sioniste s'est inscrit dans cet esprit de l'époque pour pouvoir coloniser ailleurs. Il y avait quand même plusieurs choix. Ils ont finalement choisi la Palestine. Les fondateurs de colonialisme, Il n'y avait pas de débat est-ce que c'est un projet colonial ou pas projet colonial. Tout le monde était d'accord, c'est un projet colonial. Et tout le monde était droite comme gauche. L'idée, c'était qu'est-ce qu'on va faire avec cet écart? Est-ce qu'on va les écraser? Est-ce qu'on va les éradiquer? Ou est-ce qu'on va tout simplement leur donner un petit morceau parce qu'en fait, ils sont inférieurs, bêtes? Donc, on peut vraiment leur donner n'importe. Donc, c'était ça le débat. Moi, je vous envoie, si vous voulez, il y a plein de travaux sur le sionisme, les fondateurs. Qu'est-ce qu'on fait de ce décalage? Donc, l'idée, c'était un projet colonial. Tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord qu'il était supérieur. Mais aussi, l'enjeu le plus important, c'était le recours à la force. Est-ce qu'on va utiliser la force pour éradiquer les Palestiniens? Et parmi d'autres, il y avait l'article de Jabotinsky, c'était le mur de fer qui plaidait pour l'usage massif de la force. Donc c'était l'idée d'effacer la Palestine de sa population. Donc, puisque le peuple n'existe pas, on dénie l'existence de ce peuple, y compris dès le départ dans la déclaration Balfour de 1917. Les Palestiniens étaient réduits à des non-juifs. C'est par la négation. On parle d'un peuple comme non quelque chose. Donc, plus tard, on va avoir la Nakba, ça veut dire la catastrophe palestinienne. Et c'est ça, un moment clé de l'histoire palestinienne. Pourquoi? Parce qu'il y a deux tiers du peuple palestinien qui vont être, à partir de ce moment-là, devenir des réfugiés. Donc deux tiers du peuple, des réfugiés. On va dénier la Nakba. On va attendre, 50 ans plus tard, que certains historiens israéliens ont le courage d'accéder aux archives pour parler de nettoyage ethnique comme Hélène Pappé. Lorsque les Palestiniens parlaient de ce qui s'est passé, violés, des crimes qu'ils ont subis de nettoyage ethnique, personne ne croyait ces Palestiniens. C'est exactement ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, si vous voulez. Lorsque on dit, oui, il y a 40 000 morts, oui, mais c'est le chiffre de Hamas. Oui, mais on n'a pas de sources fiables. C'est exactement les mêmes mécanismes. Donc, les Palestiniens, lorsqu'ils parlent de la Nakba, ils parlent de la Nakba comme un processus continu qui a commencé il y a un siècle, avec un moment quand même important en 1948, mais ce n'est pas une histoire dépassée, c'est une histoire toujours présente. Donc c'est un moment clé, je dirais, de l'histoire et même la réalité palestinienne. Comme je l'ai dit, puisqu'on c'est une colonisation de peuplement et de remplacement, les génocides, nettoyage ethnique, c'est des principes de ce mécanisme de domination. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Le transfert, le déracinement, on a parlé de deux tiers du peuple palestinien qui sont devenus réfugiés, lorsqu'on a reconnu, oui, ils ont pris fuite. Alors imaginez-vous à Gaza, on vous demande d'aller vers le nord et on vous bombarde. Après, vers le sud, on vous bombarde. Et vous avez des enfants, une famille, et on ouvre les frontières. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas une fuite. Vous êtes déraciné. Vous allez tout simplement protéger vos enfants, aller prendre un endroit dans un camp de réfugiés, et toujours en ayant votre clé de maison, en espérant que la guerre s'arrête pour pouvoir y revenir. C'est ça, c'est la logique. Mais à Gaza, toutes les frontières sont fermées, les gens, tout simplement, ils se déplacent, ils sont en train de mourir, dans le nord comme dans le sud. Donc ça, c'est le même mécanisme qu'on a appliqué aux Palestiniens il y a à peu près 75 ans. L'une chose aussi, le mécanisme de domination, je dirais, dans une situation coloniale, et c'est on parle peu, c'est confisquer le temps. Qu'est-ce que ça veut dire confisquer le temps? D'abord, puisque le Palestinien n'existe pas, il n'y a pas d'histoire. Donc on efface l'histoire palestinienne. Il n'y a pas un peuple. Et moi, j'ai vu plein de projets de recherche, comme plein de projets financés par l'Union européenne, comme quoi pour mettre à jour, si je reprends le terminologie de George Orwell, mettre à jour le passé. Donc il faut vraiment travailler le passé dans un sens pour qu'il soit adéquat avec le discours commun dominant aujourd'hui. Deuxième chose, lorsque je parlais des réfugiés, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un camp de réfugiés? Ben, il faut les démolir le plus vite possible, que les gens retournent chez eux. Qu'est-ce qu'on a fait des camps de réfugiés? On a fait de tout ce qui est temporaire quelque chose de permanent. Ce sont des gens qui sont en attente depuis 75 ans. Donc, je dirais, un mot-clé à prendre dans une situation coloniale, c'est l'attente. On est en train d'attendre quelque chose qui va venir. On attend dans les camps des réfugiés. On attend en prison. On confisque la vie des gens en prison avec la loi administrative, que Salah peut-être va en parler. On confisque le temps sur le checkpoint. On confisque le temps lorsqu'on voyage. Et moi, je suis arrivé en France en 2003. Je suis en attente depuis 21 ans. La première chose que j'ai fait, voilà, premier master 2, deuxième master 2, troisième master 2, doctorat. On attend d'une solution. Et c'est toujours pire en pire, avec l'espoir que ça va se régler un jour. Et c'est notre vie. Je vous laisse imaginer, si vous êtes en vacances, il y a un train supprimé et vous êtes en train d'attendre que le prochain train arrive. Alors, attente, mais dans une situation d'incertitude et de menace. Donc c'est ça, quelque chose de structurel de la vie quotidienne des Palestiniens. Lorsqu'on met les gens dans une situation d'attente, il n'y a plus d'avenir. Ils peuvent plus projeter dans l'avenir. Donc on a effacé leur histoire, on a confisqué leur présent, et donc ils peuvent plus projeter dans l'avenir. C'est ça une situation de colonisé. Après, pour dire aussi un mot qui, sur le paradigme colonial, il y a certains qui veulent insister sur la question d'apartheid, comme quoi il y a une séparation. Non, il y a un remplacement d'abord. Il y a un effacement d'abord. C'est ça le processus le plus important. Et l'apartheid devient comme deuxième étape. Là, on voit, par exemple, les Palestiniens qui sont citoyens en Israël. On a fait une loi. On a institutionnalisé cet apartheid par la loi 2018 qui s'appelle Israël, foyer national du peuple juif. Donc, faites ce que vous faites, vous avez une condition de coloniser, vous n'allez jamais être citoyen de premier rang parce que tout simplement vous appartenez pas à la religion qui vous permet d'être en position de supériorité. Donc lorsqu'on fait une situation, je dirais, coloniale de remplacement, et voilà, on a changé, on n'a plus l'analyse de classe qui va fonctionner parce qu'un ouvrier, je dirais, israélien, a beaucoup plus de bénéfices qu'un bourgeois palestinien. Et là, on parle d'une condition décolonisée, on a vraiment un système de castre. Vous êtes né des dents, vous allez mourir des dents, vous n'allez pas pouvoir changer. La classe, là je reprends Loïc Vacon, la classe, on peut la changer. Si par hasard on trouve un boulot, on peut être plus riche, on peut avoir plus d'économie. Mais la condition décolonisée, on ne peut pas le changer. Donc ça, c'est pour un peu saisir ce qui se passe. J'ai parlé, donc je reviens un peu pour comprendre ce qui se passe à Gaza à travers cette condition coloniale. En 1948, il n'y avait pas quelque chose qu'on appelait bande de Gaza. Cette bande a été créée à partir de 1948. Qu'est-ce qu'on voulait faire de cette zone? On voulait tout simplement faire le camp de réfugiés le plus grand du monde. Les habitants de Gaza, deux tiers des habitants de Gaza, ce sont des réfugiés qui vivent dans des camps de réfugiés. Donc on a fait d'abord le camp de réfugiés le plus grand, plus tard c'est devenu prison à ciel ouvert, même avant le siège. Donc l'histoire de siège de Gaza, ça commence pas il y a 20 ans, ça commence il y a 75 ans. Mais lorsque je parle de nettoyage ethnique ou de génocide, comme c'était quand même quelque chose de structurel, ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas les crimes en fait, ce qui est nouveau, c'est la banalisation des crimes. Et en tant qu'universitaire, l'infrastructure de l'éducation, surtout les universités qui ont été détruites à Gaza, au début, on justifiait. Après, on a arrêté de justifier. Lorsqu'on a détruit les universités au début par les bombardements, on disait, oui, le Hamas se cachait derrière, le Hamas. dernière université qui l'ont détruit, c'était l'université Lesra. L'armée israélienne occupe le siège pendant 2 mois. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettent des explosifs, ils filment et ils vont faire sauter, en fait, le bâtiment devant les caméras. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de faire des crimes, on assume et on s'en fiche complètement. Donc, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, ce n'est pas les crimes en soi, mais c'est la banalisation des crimes que les Palestiniens subissent depuis un siècle. Alors, une fois on a parlé de cette situation coloniale et pour comprendre, donc on comprend que ce paradigme est indispensable pour l'analyse en tant que chercheur. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de réticence en France pour utiliser le mot colonial. Dès qu'on utilise le mot colonial, comment tu oses parler d'un État colonial alors que le seul État démocratique au Moyen-Orient? Enfin, ça, c'est un argument que certains chercheurs utilisent. Alors, normalement, c'est le métier de la télé, je dirais, parce que c'est le sens commun, c'est pas le savoir qu'on produit à l'université. Donc là, on a un peu, je dirais, malheureusement, l'université produit l'ignorance au nom du savoir. Ça, c'est grave. Donc, c'est très important pour mobiliser ce paradigme sur le plan analytique, mais aussi sur le plan moral. Pourquoi sur le plan moral? Parce que déjà, on va reconnaître les Palestiniens comme sujet, et non pas comme des objets ou comme des sous-hommes. On va sortir aussi de ces jugements de valeur morale. Voilà, ce sont des terroristes, ce sont des barbares, ce sont de je ne sais pas quoi. On va comprendre que cet ordre colonial qui a été établi en Palestine était établi par la force. Et du coup, la source de la force, c'est dans cette situation coloniale, est venu de la part des colonisateurs et non pas des colonisés qui veulent récupérer un peu de son humanité. Et je dirais, surtout, avec ce paradigme, on va mettre fin à ce que j'appelle, à la suite de Bourdieu, l'hypocrisie collective dont on souffre ici. L'hypocrisie collective, c'est le double standard dès qu'on parle de la Palestine. En effet, je sais que ça a été justifié à certains moments parce qu'il y a Je vais terminer juste une minute. Donc, ça a été justifié parce qu'il y a certains Palestiniens qui ont intériorisé aussi cette manière, je dirais, dominante d'aborder la Palestine. Et c'est malheureusement depuis les accords d'Oslo. Parce que, je dirais, à partir de ces accords d'Oslo en 1993, on a présenté cette période comme une certaine rupture. Comme quoi on parlait plus de situation coloniale, mais parlait de conflit. Et on est passé d'une situation de conflit à une situation de post-conflit. Les vieux ennemis sont devenus des amis. On commençait à parler de la paix et du développement alors que la colonisation perdure et s'accélère. On commençait à parler de l'indépendance économique alors qu'on est dépassé d'une dépendance, je dirais, à l'égard de l'économie israélienne à une dépendance et domination complexe où on dépend également aussi de l'aide internationale. On a introduit des politiques néolibérales et des sociétés de consommation. On a construit une réalité virtuelle pour saisir la réalité palestinienne qui a été intériorisée par le leadership palestinien. Et du coup, là, on perd un peu le fil. Donc, il y avait certaines hypocrisies qui produisent ici dans les médias, dans les discours commun qui a été intériorisé par certains Palestiniens. Du coup, lorsqu'on va saisir la réalité à travers le paradigme de cette situation coloniale, là, on ne va pas perdre le fil, quelles que soient les positions des dominants en Palestine ou de ceux que j'appelle le nouveau riche. Et donc, je vais m'arrêter là et j'espère que j'étais clair. Merci.
Merci infiniment. Je pense qu'il y a plein de choses qui feront écho aux discussions tout à l'heure. Tu disais une forme d'effacement de l'histoire du peuple palestinien. Et il y a dans la dimension du génocide, Beaucoup aussi qui ont pointé la dimension d'un génocide culturel, avec notamment la disparition d'archives à Gaza qui ont été détruites par des frappes israéliennes. Il y a notamment une réalisatrice palestinienne, Bissan Oudoua, qui dit « Maintenant, nous n'avons littéralement plus rien. Le futur est inconnu, le présent est détruit et le passé n'est plus notre passé. Pouvez-vous imaginer qu'ils sont en train de faire ça pour nous détruire en profondeur ?» Et puis, évidemment aussi, l'assassinat de Rifat Al-Harir, qui est un poète, un écrivain palestinien très connu, qui était aussi le fondateur de « Nous ne sommes pas des chiffres », justement, pour, avec des écrivains du monde entier, des jeunes palestiniens, expliquer quelle est la vie et que derrière des chiffres, des nombres, eh bien, on mette des vies humaines, et dont on sait qu'il a été spécifiquement visé par les Israéliens, qui là aussi contribuent à, en quelque sorte, vouloir détruire en profondeur l'histoire, la culture du peuple palestinien. Alors, je vais maintenant donner la parole à Géraldine, qui va donc nous parler pour l'Union juive pour la paix. Merci encore, Géraldine, de ta présence.
Ça marche ? Ah, d'accord. Alors, bonjour à tous et à toutes. Un grand merci à la France Insoumise de nous avoir invités. Donc, l'Union juive française pour la paix est une association porteuse d'une parole juive antisioniste, puisque nous sommes opposés à la colonisation, à l'occupation et au régime d'apartheid. Cette orientation nous amène donc tout naturellement à soutenir la lutte du peuple palestinien. Et j'en profite aussi ici pour apporter notre soutien au peuple kanak, puisque nous sommes en France et qu'en France, on doit aussi lutter contre notre propre colonialisme. L'UJFP est aussi une association antiraciste politique. Je reviendrai là-dessus. Ce qui nous a amené avec nos camarades de TSEDEC, le collectif juif décolonial, face à la montée de l'extrême droite, face aux politiques du gouvernement Macron, à apporter notre soutien au nouveau Front populaire et à participer activement pendant toute la campagne. En tant que Française juive, le crime du siècle qui se déroule sous nos yeux, en direct, annoncé par le gouvernement israélien, en notre nom, mais insupportable. C'est pour ça que l'UJFP a lancé hier un appel à tous les juifs et juives du monde à signer pour demander un cessez-le-feu définitif et permanent à Gaza. Nous dénonçons aussi fermement la complicité de la France par son soutien inconditionnel à l'État israélien et jusqu'à ce jour, aucune sanction n'a été prise par rapport à ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ce qui se passe, ce n'est pas un conflit de religion, comme beaucoup semblent, veulent nous faire croire. Nous sommes, comme l'a dit notre camarade, dans une guerre coloniale avec un occupé et un occupant. Israël, qui se présente comme le refuge pour les Juifs du monde entier, et l'état de tous les Juifs, qu'est-ce que ça provoque pour nous en tant que Juifs français ? Eh bien, ça nous rend étrangers dans notre propre pays. Ça veut dire que moi, je n'ai pas ma place ici en France, donc ça aussi, nous le dénonçons fermement. Et quand il commet un génocide au nom de la défense de tous les Juifs du monde, il nous associe à sa politique génocidaire. Et encore une fois, nous nous opposons fermement à cette alliance avec ce gouvernement colonial, suprémaciste, raciste et génocidaire. Depuis la naissance du projet sioniste, qui est un projet colonial suprémaciste de remplacement d'une population par une autre, il y a toujours eu des voix juives qui se sont opposées à ce projet colonial et à l'enfermement des juifs dans un État-nation. Le sionisme a été très longtemps un mouvement minoritaire au sein des juifs et juives. Il y a plusieurs diversités au niveau de ces oppositions, du religieux au laïque, du communisme au socialisme, et aussi en particulier du côté du grand mouvement socialiste du Bund, ce mouvement donc de juifs d'Europe centrale, qui a perçu tout de suite le projet colonial du projet sioniste. Je vous conseille la lecture d'un livre qui a été coécrit par trois autrices qui sont membres de l'UGFP, qui s'appelle Antisionisme, pardon, une histoire juive, donc écrit à trois mains par Béatrice Aurès, Sonia Feynman et Michel Siboni. Il y aura une dédicace à midi au stand du livre, donc si vous voulez aller discuter avec une des autrices. C'est vraiment très très intéressant pour avoir des arguments, justement, pour contrecarrer le discours ambiant sur le fait que les Juifs et les Juifs ont toujours soutenu ce projet. On va parler maintenant du gouvernement israélien. C'est vrai que le gouvernement israélien est un gouvernement d'extrême droite. Ça, je pense que tous et toutes ici, on le sait. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que les gouvernements successifs qui se prétendaient de gauche ou de droite, et depuis la création de l'État d'Israël, ont toujours été des régimes politiques coloniaux. Ce qui se passe, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur ce qui se passe. Bien sûr, les atrocités commises aujourd'hui sont terribles, mais encore une fois, tous les gouvernements ont pratiqué des politiques coloniales d'expropriation, de massacre, de remplacement de cette population palestinienne. Le combat pour la Palestine, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. C'est un combat pour la justice et pour la paix. C'est un combat politique contre le colonialisme et contre le racisme. Vous avez vu, depuis le début, les accusations d'antisémitisme qui touchent tout le monde. Alors, on va parler rapidement du gouvernement israélien. Je pense qu'il serait plus rapide et simple de faire la liste de qui n'est pas antisémite, parce qu'avec eux, même l'ONU, donc je pense que vous avez tous les bails, on est au courant de ça. Maintenant, on va parler de ce qui se passe en France, parce que le gouvernement français aussi instrumentalise la question de la lutte contre l'antisémitisme. Alors, on va se parler clairement, il y a de l'antisémitisme, et on doit prendre en compte et combattre l'antisémitisme en France, dénoncer les actes, dénoncer les agressions, dénoncer les incendies, les tentatives d'incendie, que ce soit dans les synagogues, partout. Mais encore une fois, aujourd'hui, l'accusation d'antisémitisme qui a été faite pendant toute la période a principalement été donc contre tous les mouvements de solidarité avec la Palestine, contre les organisations politiques, NPA, la France insoumise. Je tiens à vous signaler que même nous, à l'Union juive française pour la paix, nous avons eu une convocation pour apologie de terrorisme. Donc, ce n'était pas antisémitisme, mais bon, ça va pas tarder. De toute façon, ils sont en train de chercher des choses. Donc, on n'oublie pas que l'accusation de l'antisémitisme, c'est un rayon paralysant. C'est-à-dire que si vous êtes accusé d'antisémitisme, le débat est clos. Le gouvernement français nous amuse beaucoup. Quand je dis amuse, c'est un peu ironique, parce qu'il se prétend lutter contre l'antisémitisme en organisant sa fameuse marche aux côtés de l'extrême droite, la fameuse marche où nous avons, nous aussi, comme les camarades de Tzedek, refusé d'y participer, parce que non seulement on ne participe pas à une marche avec l'extrême droite, mais pas avec le gouvernement Macron non plus, qui pratique une politique islamophobe depuis plusieurs années. On rappelle la dissolution du CCIF, la seule organisation qui permettait la défense des musulmans. On rappelle aussi la loi immigration, asile-immigration, la loi la plus raciste de la Ve République. On rappelle les fameuses polémiques, c'est même pas une polémique, les interdictions de la baïa. On a contrôlé, on a mesuré la longueur des jeunes filles aux portes des écoles. Voilà ce gouvernement qui se prétend lutter contre les racismes, contre l'antisémitisme et qui pratique des politiques discriminantes vis-à-vis des concitoyens français de confession musulmane. Et ça, nous, l'Union juive pour la paix, on le dénonce fortement. Et on sera toujours du côté de l'antiracisme politique. L'antiracisme politique, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer aux lois qui discriminent nos compatriotes. On va parler aussi des fermetures de mosquées. Il y a encore un imam qui va se faire expulser. On peut ne pas être d'accord sur le fond, mais voilà ce que fait ce gouvernement français. Donc nous, on fait nos luttes, on n'a pas besoin d'eux, et surtout pas d'eux. Dernière chose aussi, grand défenseur des Français juifs et juives de France, Emmanuel Macron réhabilite Pétain, son camarade Darmanin parle de Maurras, et je vous passe la suite. Donc c'est bon. Le problème des accusations qui ont été portées comme ça à tout va contre l'antisémitisme, non seulement elles banalisent les véritables actes antisémites, et en plus, ça fait monter l'antisémitisme. C'est-à-dire que faire passer pour tout le monde pour des antisémites, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de rien dire. Et ça, encore une fois, nous le dénonçons fermement. On sait ce qu'on doit faire. Les mouvements antiracistes politiques savent les termes utilisés, savent les combats qu'ils vont mener, et c'est encore une fois pas l'État qui va nous apprendre nos luttes. Ce qu'il faut aussi que ce gouvernement et tous nos opposants politiques, et même dans d'autres organisations, sachent, c'est que malgré ces tentatives d'intimidation, malgré ces interdictions, malgré la volonté de judiciariser nos prises de parole, nos publications, on va continuer. Nous continuerons le combat et nous soutiendrons toujours le peuple palestinien dans sa lutte légitime. Alors, comment on fait en France? En France, comme les camarades de la LFI, comme les camarades du NPA et comme d'autres associations, on tient sur les termes utilisés. À l'Union juive française pour la paix, notre boussole, c'est le droit international. Donc, ce n'est pas une opinion, c'est le droit international. Donc, le droit international parle de crimes de guerre. Le droit international parle de génocide. Le droit international dit qu'une population qui est soumise, occupée par une puissance occupante, a le droit à la résistance. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une opinion, c'est le droit international qui le dit. On tient bon sur les mots, parce qu'en effet, on ne va pas se laisser accaparer le récit. Vous avez vu la pression, le rouleau compresseur des médias, des partis politiques. Donc on tient bon sur ça, la boussole, c'est le droit international. On a aussi, en moyen d'agir, la fameuse campagne BDS, Boycott des investissements sanctions, une campagne qui est très importante, qui a été lancée en 2005 par la société civile palestinienne. Et je rappelle aussi que l'appel au boycott est légal, ça aussi, il faut arrêter, que la campagne BDS est une campagne pacifiste, c'est une campagne non raciste, et encore une fois, qui émane de la société civile palestinienne. Donc c'est très important de la suivre, c'est très important de suivre ce qui a boycotté, parce que les Palestiniens et les Palestiniennes savent exactement quelles sont les entreprises, quelles sont les marques, quels sont les partenariats qui participent concrètement à leur oppression. Donc je vous encourage vraiment à relayer la campagne BDS, à nous suivre sur les réseaux sociaux et ne pas hésiter à nous contacter. Il y a plein de groupes à travers la France. C'est une campagne internationale. Et là, il y a deux victoires. Donc déjà l'équipementier Puma, qui équipait les équipes de football israélienne, a rompu son contrat. Il y a aussi AXA. Enfin, AXA qui finançait aussi les entreprises, les banques israéliennes, enfin qui assuraient les banques israéliennes. Donc encore une fois, on ne s'attaque pas aux individus parce qu'ils sont israéliens ou juifs. Nous nous attaquons, nous demandons le boycott de tout ce qui représente l'État israélien. Et encore une fois, c'est reconnu dans le droit européen, c'est la critique légitime d'un État, le droit à l'expression, et encore une fois, il n'y a pas plus pacifiste que la campagne BDS. Autre chose aussi qui est très importante, selon nous, c'est que notre soutien à la cause palestinienne ne doit pas être conditionné à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, nous sommes tous et toutes ici au courant des atrocités, du génocide. C'est terrible. Pas de problème par rapport à ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'entendait plus du tout parler de la Palestine. Donc, on continue à côté d'eux. Le peuple palestinien souffre, mais c'est un peuple de résistants. depuis plus de 76 ans. Et donc, quelles que soient les modalités, eh bien, nous devons être en soutien à ce peuple qui lutte dignement pour sa libération. Il y a plein de mouvements de paix là qui apparaissent, paix comme ça, mais ils ne parlent jamais de justice. Alors, à l'Union juive française pour la paix, paix, mais justice. Parce que la paix, c'est pas le retour à la normale. C'est pas on arrête les combats et puis après on revient comme avant. Nous demandons l'application, le respect du droit international. Nous affirmons aussi la possibilité, puisqu'on nous parle souvent, oui, qu'est-ce que vous prévoyez ? Nous, on prévoit rien. Hein, on n'a pas à parler à la place des gens qui sont là-bas. Mais il y a la possibilité, et quand on parle, nous, à l'Union juive française pour la paix, de l'égalité de droit de la mer au Jourdain, et j'insiste bien là-dessus, de la mer au Jourdain, c'est l'égalité de droit pour tous les habitants et toutes les habitantes de cette terre. Égalité de droit. Égalité de droit, de dignité et la sécurité. Parce que ce qu'il faut que tout le monde comprenne bien, c'est qu'il ne pourra pas y avoir de sécurité, que ce soit pour les Israéliens ou les Palestiniens, tant que ce régime colonial perdurera. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que nous demandons, nous, donc, l'égalité de droit, la fin de la colonisation, la fin de l'occupation, le droit au retour de tous les réfugiés palestiniens et palestiniennes et la suppression du régime d'apartheid. Je termine. La cause palestinienne, c'est une cause, en fait, qui coche toutes les cases. L'anti-impérialisme, l'anticolonialisme, l'antiracisme, la préservation d'un peuple et la question de l'environnement. C'est ça, la Palestine. Et je vais terminer par vous dire que je suis très honorée d'être là aux côtés de Salah, qui est un militant déterminé pour le droit des Palestiniens et des Palestiniennes. Et c'est un véritable honneur. Je vous remercie.
Merci infiniment, Géraldine. Et je voudrais, en notre nom à toutes et tous, remercier infiniment l'Union juive pour la paix et Tzedek pour leur combat à nos côtés, évidemment, dans l'ensemble des manifestations qui ont eu lieu un peu partout dans le pays, mais aussi dans l'engagement autour du nouveau Front populaire, parce que c'est tellement le rayon paralysant dont tu parlais qu'ils utilisent, que vraiment cet engagement est extrêmement précieux. Donc merci infiniment, parce qu'il y a une violence particulière aussi qui s'exprime, que ce soit sur l'Union juive pour la paix, que ce soit aussi sur les camarades de Tzedek. Donc un merci infini. Merci d'avoir rappelé aussi qu'on est sur une histoire plus longue qui n'a pas commencé le 7 octobre, contrairement à ce que veulent nous faire croire des médias et autres qui veulent en quelque sorte empêcher les gens de penser. Et puis, comme tu as fait une allusion qui est, je pense, très importante à avoir en tête sur la Calédonie Kanaky, qui, je le rappelle, est dans une situation désastreuse. Il y a un rapport des experts de l'ONU qui est sorti en début de semaine, qui parle de plusieurs morts, notamment Kanak, avec des milices qui se créent et des assassinats de gens qui se font, et qui parle dans ce rapport de quelque chose qui, moi, personnellement, même si j'ai beaucoup suivi la situation là-bas, et on a beaucoup combattu le projet de loi qui est responsable de la situation qui a lieu actuellement en Calédonie Kanaky, qui parle de 500 disparitions forcées en Calédonie Kanaky actuellement. Donc il y a une situation là-bas qui est une situation là aussi coloniale. Il y a un soutien au peuple kanak à apporter. Et du coup, je voudrais saluer la présence, tu peux juste te lever, de Tematai Le Gaïk, qui est député, ancien député, mais on va le revoir bientôt, indépendantiste polynésien, et qui est très attaché aux droits du peuple kanak et qui mène beaucoup la bataille. Et ça me permet de saluer aussi la présence d'Elsa Leforce. Tu peux te lever aussi, Elsa. Qui est une militante acharnée sur la Palestine. côté de Salah Hamouri, et je voudrais en profiter pour juste saluer ton père, Jean-Claude Lefort, qui était mon prédécesseur député et qui est un homme immense sur la question des droits des Palestiniens, qui a fait un travail absolument remarquable. Donc je voulais le saluer et lui faire un hommage aujourd'hui dans ces journées d'amphi. Jean-Claude Lefort, député qui était député communiste dans le Val-de-Marne. Et maintenant, je donne donc la parole à Salah Hamouri.
Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci Mathilde, merci Elefi pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui et parler de la Palestine et du peuple palestinien. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui me touche beaucoup et je l'ai toujours en tête. C'est la question de la fragmentation du peuple palestinien. L'occupation 48-67, deux parties d'occupation. Après 67, la fragmentation interne du peuple palestinien jusqu'à l'arrivée à l'affaire, au processus de paix, entre guillemets, de Oslo. Moi, je pense que les accords d'Oslo, c'est la troisième catastrophe palestinienne signée par les propres mains des Palestiniens. On a 48-67, les accords d'Oslo. Une piège internationale dans laquelle les Palestiniens sont tombés. Et après 1993, on le voit clairement, de plus en plus, la question de la fragmentation du peuple palestinien. Oslo, qu'est-ce qu'il a créé pour les Palestiniens? À la place d'avoir un peuple, une identité, Oslo, avec bien sûr la puissance coloniale derrière les États-Unis, l'Union européenne et les forces impérialistes, ils ont poussé à créer cinq peuples à la place d'un peuple. Ça veut dire avoir un peuple enfermé à Gaza, un peuple enfermé en Cisjordanie, un peuple enfermé à Jérusalem. Les Palestiniens de 1948, on n'en parle plus parce qu'on les considère comme israéliens, et les réfugiés palestiniens à l'extérieur. Avec cette fragmentation de ce peuple et le passé du temps, le but stratégique de cette fragmentation, c'est la liquidation totale de l'identité nationale du peuple palestinien. Liquider et finir et fondre l'identité nationale qui conduit à finir définitivement avec le mot « peuple palestinien ». Ça, ce projet n'a pas commencé en 1993. Ça, le projet, il a commencé en 1917. Il a été accéléré en 1948 par la Nakba, où ils ont sorti à ce moment-là 800 000 Palestiniens à l'extérieur de la Palestine, qui a continué en 1967 et qui continue aujourd'hui. Mais quand on voit cette fragmentation, on a parlé de cinq morceaux, mais quand on voit plus profondément, aujourd'hui, en Cisjordanie par exemple, aujourd'hui chaque village de la Cisjordanie est coupé de l'autre, chaque ville est coupée de l'autre. Ils sont en train d'essayer de pousser chaque petite population de développer même une culture différente de celle du village d'à côté. Et ça, cet esprit de fragmentation, avant qu'elle soit appliquée sur la population en Cisjordanie, cette fragmentation détaillée, nous, on l'a vécu exactement en prison. En prison, nous, on était identifiés par parti politique et tous les partis sont présents, on était identifiés, il n'y avait pas de séparation par géographie, on va dire. 2005-2006, une décision qui tombe, qui dit voilà, les prisonniers doivent être arrêtés et détenus par zone géographique. les gens de Jérusalem tout seuls, les gens de 48 tout seuls, les prisonniers de Toulkarem tout seuls, les prisonniers de Gaza tout seuls, et comme ça. Nous, au début, on n'a pas vraiment analysé la situation, pourquoi ils sont en train de séparer en termes géographiques. Avec le passé du temps, tu vois que la décision derrière la mentalité qui était derrière cette décision, c'est de finir avec le mouvement de prisonniers politiques qui était élu, qui était représenté, qui menait une bataille contre l'administration de prison. Tout derrière se cache l'idée de la liquidation du peuple. Aujourd'hui, le génocide en cours, ça part de la même mentalité qui a commencé en 1948. Aujourd'hui, plus ou moins 150 000 Gazaouis qui sont déjà partis de Gaza. Entre blessés, entre familles, entre les gens forcés et accompagnés, on a 150 000. Ces 150 000, ils vont plus ou moins jamais avoir le droit de retourner. Surtout après les négociations qui sont en train de se voir là sur la question qui va tenir le frontière de Rafah et le checkpoint de Rafah aujourd'hui. Le génocide en cours, il vient pour compléter ce qui s'est passé en 1948.
Merci à Mathilde Panot. Et pour finir, nous écouterons Mum Sing to the Wind, une chanson populaire palestinienne dédiée à Gaza et chantée par Naï Barghouti. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. À très bientôt. Shut up.